J'espère que déjà tout ce que vous avez vu, entendu, vous aura plu, mais surtout vous aura communiqué quelque chose, vous aurez communiqué ce message central de Noël. Et peut-être vous comptez les jours jusqu'à Noël. Il y a des gens qui font ça, ou peut-être c'est juste que moi j'avais une enfance triste, mais je me souviens, chez nous on comptait toujours les jours jusqu'à Noël, on avait même des bougies, et chaque jour il fallait descendre la bougie jusqu'au jour de Noël. Ben, si vous comptez jusqu'à Noël, vous n'avez plus grand chose à compter, mais ce matin, j'aimerais partager avec vous une information encore plus importante, plus critique. Vous n'avez plus que 119 jours jusqu'à Pâques. Donc si vous voulez acheter vos œufs, allez-y maintenant, vous éviterez les foules au moment de Pâques. Mais si cela peut vous surprendre de parler de Pâques un 22 décembre alors qu'on est juste avant Noël, c'est parce que finalement, selon la Bible, on ne peut pas avoir une des fêtes sans l'autre. Alors pour Pâques, c'est évident. Si Jésus n'était pas né à Noël, il n'aurait jamais été là pour Pâques 33 ans plus tard. C'est évident. Mais la Bible nous dit que l'inverse est vrai aussi. Impossible d'avoir Noël. Noël n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu de Pâques plus tard. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, une semaine avant Pâques, Jésus est en train de préparer ses disciples pour ce qui allait venir, ce qui allait se produire cette semaine-là. Et il dit ceci, « Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jésus, finalement, est né à Noël, mais en vue de quelque chose. Donc certes, Noël, c'est sympathique, c'est l'histoire d'un enfant qui est né, et d'ailleurs pas le moindre enfant. Déjà, le prophète Ésaïe avait dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On ne dirait pas, n'est-ce pas, quand on le voit dans les tables, parce que le gentil aubergiste ne voulait pas donner de chambre dans son hôtel. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Vous avez entendu tout à l'heure l'ange qui disait à Marie, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Cet enfant donc, qui est né dans des conditions tout à fait humbles, qui allait devenir, ben il était déjà Dieu, mais qui allait devenir celui qui serait reconnu comme fils du Très-Haut, ben il n'est pas venu juste par hasard, il n'est pas venu pour rien faire, juste pour rendre visite, juste pour que on puisse monter une belle pièce autour de cette histoire de Noël pour épater la galerie avec les chorales. La Bible nous dit dans le livre de Galates, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Jésus est venu dans cet objectif-là, cet objectif de nous racheter. Lorsque l'ange a parlé avec Joseph, L'ange dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On vient également de voir les anges faire une déclaration aux bergers et aux petits moutons. La Bible nous dit que lorsque les anges se sont apparus, les bergers furent saisis d'une grande frayeur. Alors, je ne sais pas si ce matin nos anges ont fait peur, mais les bergers furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc, dans les deux annonces, l'ange dit que c'est un sauveur qui est né, qui est venu. Si ce Jésus qui est né ce jour-là donc est un sauveur implique le besoin d'être sauvé, le besoin d'un sauveur qui vient pour sauver. Et la Bible nous dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc Jésus est né ce jour-là, puisqu'il est venu en tant que sauveur pour racheter son peuple, parce que les pécheurs avaient besoin d'être sauvés. Mais qui sont ces fameux pécheurs? Ben, la Bible nous dit également, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors j'espère que je ne vous choque pas ce matin, mais la Bible dit que tous, Dieu nous considère comme des pécheurs. Alors que nous, nous aimons généralement penser que nous ne sommes pas si mauvais que ça, n'est-ce pas? Peut-être pour vous, c'est vrai. Mais j'ose dire, pas totalement. La Bible nous dit également que quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Peut-être vous êtes meilleur que d'autres, mais Dieu ne demande pas meilleur, il demande la perfection. Dans Matthieu 5, 48, Jésus disait, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » C'est un peu comme si vous voulez acheter un t-shirt blanc. Si le vendeur vient et il vous propose un t-shirt noir, ça ne correspond pas. Donc, il peut venir avec un t-shirt gris foncé. C'est toujours pas ça. Même si c'est gris clair ou si c'est crème, ce n'est toujours pas un t-shirt blanc. Avec Dieu, on peut être pas totalement noirci par le péché. Mais même si on est dans une échelle de gris ou même blanc cassé, ce n'est toujours pas la perfection. Et donc, selon Dieu, si on n'est pas parfait, on a besoin d'un sauveur. Et puisque la Bible dit que nul n'est parfait, que tous ont péché, alors nous avons tous besoin d'un sauveur. Et le but principal de la mission de ce sauveur, ce n'est pas simplement d'améliorer notre vie ou de nous épargner les conséquences de notre péché. Son objectif, c'est de nous permettre d'être en paix avec Dieu, d'entrer en relation avec Dieu. L'apôtre Paul a écrit « Qu'étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » La mission donc de ce Sauveur qui est venu, c'est de nous permettre de connaître Dieu en tant que Père, d'être en relation avec lui, de devenir ses enfants, ses héritiers, de pouvoir vivre dans son royaume avec lui. Puisque la Bible nous dit que finalement, tout être humain a été créé dans l'objectif d'avoir une telle relation avec Dieu. Sauf que toujours, nous tombons à chaque fois sur ces paroles de Romains 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc créés pour être dans la gloire de Dieu, mais privés de la gloire de Dieu par le péché. Et le péché, c'est ne pas respecter les règles que le Créateur a mises en place pour qu'une telle relation soit possible. C'est vouloir inventer et imposer nos propres règles, dire à Dieu, ben voilà, moi je suis d'accord sur telle ou telle condition, que c'est nous qui disons ce qui est bien et mal pour pouvoir se justifier. Et nous le faisons tous, dans un certain degré. Mais une fois qu'on a fait cela, une fois qu'on décide de vivre selon nos propres règles, une fois qu'on ne respecte pas ce que lui, il a dit, la relation est définitivement rompue. Puisque Dieu est parfait, on l'a déjà lu, Jésus a dit, comme votre Père céleste est parfait. Mais un Dieu parfait ne peut pas coexister avec même le presque parfait. À partir de là, Dieu avait deux options. Soit nous abandonner à notre sort en disant, bon, bah, tant pis pour vous. Soit venir lui-même nous sauver. Et la Bible nous dit que c'est ce qu'il a fait. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, dit la Bible. Et cela souligne un problème supplémentaire qui est aussi une conséquence du péché. On a besoin du coup de se réconcilier avec Dieu. Parce qu'une fois le péché entré dans l'histoire de l'humanité, une fois le péché d'ailleurs entré dans l'histoire de chaque membre de l'humanité, un Dieu qui est parfaitement juste ne peut pas simplement laisser passer l'injustice, comme si ce n'était pas grave. Si le salaire du péché, c'est la mort, il fallait que notre Sauveur assume les conséquences de notre péché. Et donc que le Sauveur, qui est né à Noël, meure à Pâques 33 ans plus tard. C'était son objectif. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre en tant que petit enfant à Noël. Jésus, quelques années plus tard, pouvait dire à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il fallait donc Pâques. Il fallait que cela se produise. Pâques allait devenir la raison d'être de Noël. Jésus disait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé Jésus sur la terre. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, une fois qu'il avait été élevé, afin de donner la vie éternelle. Et c'est pour cela que et Noël et Pâques sont importants. Importants même pour nous, 2000 ans plus tard, vivant au Luxembourg. puisque la Bible parle de quiconque croit. Jésus est donc venu à Noël. Il a vécu une vie parfaite, il a grandi jusqu'à l'âge de 33 ans, et puis il est mort à Pâques pour nous, pour être notre sauveur. La Bible parle de lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que quiconque croit non seulement qu'il est venu à Noël et qu'il est mort à Pâques, mais croit surtout que cette mort, cette résurrection règle notre problème de péché. Ce problème de péché qui m'empêche autrement d'être enfant de Dieu, d'avoir cette relation avec lui. La Bible nous dit que Jésus, la parole de Dieu, est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Du coup, donc, l'histoire de Noël nous met face à une question personnelle pour chacun d'entre nous. Est-ce que je crois? Car Jésus est venu à Noël afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, est-ce que je crois? Car autrement, finalement, il y a très peu d'intérêt à fêter Noël. Parce que si Jésus est venu, c'est en tant que sauveur qu'il est venu. C'est la fête de la naissance de notre sauveur. Mais il nous dit que pour en bénéficier, pour que sa mission arrive jusqu'à son objectif, il faut y croire. Alors, croire en lui a certes beaucoup de conséquences pratiques dans la vie. On en a vu récemment à l'église, on en verra sans doute d'autres à l'occasion. Mais même si croire a beaucoup de conséquences dans notre style de vie, croire commence aussi par une décision d'y croire. Si tu voudrais y croire, si tu voudrais ainsi entrer dans cette relation avec Dieu pour laquelle nous avons été créés, pour laquelle Jésus est venu. Alors j'aimerais ce matin vous inviter et même vous encourager à prendre cette décision de croire. Cette décision pour laquelle finalement Jésus est venu accomplir cette mission de sauveur.